Portez-vous bien. L'actualité sportive commentée par Jean Sureda.
Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans Portez-vous bien sur Radio Présence. Comme tous les lundis, les chroniqueurs et moi-même vous donnerons les dernières infos sportives de la région tout en balayant l'actualité de la semaine avec des invités qui font le sport de haut niveau. Au programme aujourd'hui, les éternels coups de cœur et coups de gueule de nos chroniqueurs. Timothée Rouvière vous donnera les résultats sportifs du week-end et c'est très chargé. Maxime Brossard, l'agenda de la semaine sans oublier les débats avec ce soir le futur adversaire de l'équipe de France demain soir. L'Allemagne et la Coupe d'Europe de rugby qui a commencé ce week-end. Enfin, nous recevrons Olivier Baragnon, l'entraîneur de Colomiers Rugby. Avec nous aujourd'hui, Marek Keta. Bonjour Marek.
Bonsoir à tous.
Maxime Brossard. Bonsoir Maxime.
Bonsoir.
Et Timothée Rouvière. Bonsoir Timothée.
Bonsoir.
Messieurs, bonsoir.
Et bonsoir.
Bonsoir.
Et bonsoir à Coraline. Coraline, il y a quelqu'un. On va le dire aux auditeurs. Il y a quelqu'un.
Je suis
pas
tout seul.
Et voilà, il y a quelqu'un de nouveau à côté de vous. Je ne connais pas Monsieur. Bonsoir.
Monsieur est un nouveau réalisateur.
Ah d'accord. Oui.
Comment s'appelle Monsieur?
C'est
je m'appelle Grégoire.
Grégoire.
C'est ça.
Et vous êtes étudiant, c'est bien ça?
Étudiant en animation radio et j'arrive. Quelques fois le lundi soir pour aider à la Réal.
Ouais.
Bienvenue.
Bienvenue dans l'émission de Sportez-vous bien sur Merci. Radio Présence. Ça va, Coraline est plutôt gentille, ça va?
Oui, ça va.
Il est obligé de dire oui.
Il est à côté de moi là.
On vous sent, un peu stressé, mais détendu. Comment?
Pas du tout.
Comment vous étiez? Coraline, par exemple, sur vos premières émissions de radio.
J'étais très stressée, surtout que c'était en direct, donc du coup, forcément, ça rajoute un petit peu de stress. Mais après, quand on a du bon matos et quand on a une bonne équipe, ça se passe bien.
C'est vrai, Maxime?
Mais n'étant pas de la radio, moi, je suis toujours stressé avant d'aller à la radio. Donc bon, c'est pas évident, mais il faut faire avec. Ouais, bien sûr, la musculation pour me détendre avant de venir. Et puis bon, après on essaie de poser sa voix. C'est pas évident, mais bon, on fait de notre mieux.
Ouais. Il y a toujours un côté intimidant, surtout de commencer.
Ah oui. Mais moi, quand j'ai commencé, sans parler de radio, dans le journalisme, il y a des fois, j'ai fait des bourdes mémorables. J'oubliais des noms, même de la personne que j'étais en train d'interviewer. J'ai déjà oublié les notes que j'avais prises au stade. Je suis parti, je suis rentré chez moi, elles étaient restées dans les gradins.
Il y en a eu des belles.
Hein, c'est les débuts. Quoi.
C'est excellent.
Une des pires, ça reste quand même le lapsus. Quoi,
hein, la radio, ça doit faire mal.
Surtout, suivant le thème.
Le gros trou de mémoire.
Ça vous est déjà arrivé, Timothée Rouvière, un trou de mémoire?
Un gros trou de mémoire. Moi, j'ai fait mes débuts ici à Présence. Donc, c'est vrai que les premières émissions ne sont jamais les plus cool. Il y a beaucoup de stress et tout. Mais quand on connaît bien le sujet et qu'on aime parler de sport comme on fait tous les lundis soirs, il n'y a pas de souci. Mais les gros trous de mémoire, ça arrive au début, après on s'y fait tranquille.
Et Marek Keta, les premières, c'était comment?
Les premières, elles étaient ici, avec Jean-Pierre Allot, pour ceux qui s'en souviennent, dans la matinale.
Qui était matinalier sur Radio Présence.
Absolument, et puis après, vous savez ce que c'est, une première, la voix qui tremble, mais bon, maintenant on a notre petit rituel avec Maxime, petit passage aux toilettes, et ça va mieux.
Contre antidopage.
Et tout, Maxime, vous parlez trou de mémoire sur les personnes que vous avez en face, ça va, vous connaissez tout le monde là ici?
J'ai pas Alzheimer encore, bon. J'ai 28 ans, ça va.
Ah déjà.
Bon bah oui, ça commence à faire.
J'espère que vous êtes prêts messieurs pour cette nouvelle émission. On va démarrer maintenant avec les coups de cœur et les coups de gueule.
Sportez-vous bien, les coups de cœur et les coups de gueule.
Vous commencez à avoir l'habitude, chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué. Et cette semaine, aujourd'hui même, je dois dire que vous êtes particulièrement heureux et c'est plaisant que des coups de cœur. Voilà, on ne peut pas mieux faire. Ouais. On va commencer les coups de cœur avec vous, Marek Keta, avec la reprise de la NBA, le basket.
C'est ça, le basket, on n'en parle pas souvent ici dans Sportez-vous bien, mais c'est aussi parce que la NBA, c'est la ligue principale de basket dans le monde, c'est là où il y a les plus grandes stars. Ça reprend dès demain, avec donc les fans de basket sont en train de se frotter les mains, parce que après la pré-saison, donc après l'été, il y a une pré-saison qui était plutôt intéressante. On a vu le meilleur joueur du circuit, LeBron James, qui passait d'ouest en est en quittant les Cavaliers pour rejoindre les Lakers de Los Angeles. Et la saison régulière, elle va commencer donc dès demain
LeBron James peut devenir le premier à remporter 4 fois le championnat. Absolument. Avec 4 franchises différentes.
Alors après, pour les Lakers, ce sera quand même compliqué. Justement, du coup, demain, les Américains, ils savent faire le spectacle. Demain, c'est l'Opening Night, une soirée qui met en vedette les quatre meilleures équipes. Excitation à son comble, donc, avec deux rencontres qui se suivront. Les Sixers de Philadelphie contre le Celtic de Boston. Alors, c'est qu'un match, mais pour les Celtics et les Sixers, il y aura un enjeu. Vraiment, il faudra remporter la victoire, puisque ces deux équipes vont se retrouver toute la saison. Alors, elles se tireront un peu la bourre avec les Raptors pour la suprématie dans la partie est du pays. On a aussi le retour de deux superstars de côté Celtic, Irving et Gordon Hayward. Ouais. Ça va être intéressant. Le lendemain, ce sera le Sanders d'Oklahoma contre les Warriors de Golden State. Les Warriors qui, eux, recevront les bagues de champions, ils ont gagné les finals l'an dernier. Ils joueront contre une équipe de Thunder qui est intéressante, je trouve, qui a surpris beaucoup de monde en persuadant sa superstar Paul George de rester. On va voir ce que ça va donner.
Il y a Westbrook aussi.
J'ai envie de dire à nos auditeurs pourquoi il faut regarder la NBA cette saison. Mais parce que je trouve qu'il y a particulièrement moyen de se régaler cette année.
C'est
le spectacle. Le format NBA est vraiment très intéressant avec les All-Star Games. Enfin, c'est super. Alors même pour ceux qui s'y connaissent pas, parce que au-delà de la saison en elle-même, le paramètre important, c'est qu'il y a beaucoup de superstars de clubs qui vont être libérés à la fin de la saison. Mmh. Je pense à Kevin Durant, DeMarcus, Irving. Et ces joueurs-là, en fait, vont être libres sur le marché. Et c'est pour ça que c'est intéressant de suivre cette année le basket.
Maxime, si on doit sortir un favori pour cette saison de NBA, il y en a beaucoup.
Ça va être Golden State, favori à sa propre succession. Après, on va avoir, notamment, comme il a dit Marac, les retours de Irving et Ward chez les Boston Celtics, qui va relancer un peu l'intérêt à l'Est. À Philadelphie, on a une équipe avec beaucoup de jeunes qui est en train de monter, qui est intéressante, qui s'est bien montré sur la draft. On a aussi l'arrivée de LeBron James aux Lakers, on a l'arrivée de DeRozan aux Spurs, avec le trade qu'il y a eu avec Kawhi Leonard qui est parti à Toronto. Donc là, il y a eu beaucoup de mouvements et ça va être passionnant, je pense. Donc, et puis les Français, il y a Tony Parker, le nouveau challenge qui s'est fixé.
Qui est parti à Charlotte.
Justement, les Français, je voulais en parler, ils sont 11 à évoluer dans le plus grand championnat de la planète au niveau du basket. Intéressant, donc, comme vient de dire Maxime, de voir évoluer Parker à Charlotte. Il sera en duo avec Batum. Tony, donc, qui a été écarté par les Spurs parce que son poste de meneur, on a préféré quelqu'un d'autre.
Il commence à vieillir.
Mais là, ce qu'il va apporter à Charlotte, ça va être intéressant. On rappelle que c'est un joueur qui est hyper respecté là-bas. Oui. Il a 4 titres de All-Star. Il a 6 fois. 6 fois, il a été All-Star. Oui. Il est 4 fois champion. Enfin, c'est très impressionnant.
Je pense qu'en plus, il aura du temps de jeu. Il sera derrière un joueur qui est Kemba Walker, qui est le meneur de cette équipe de Charlotte. Il aura Batum à ses côtés, qu'il connaît bien. Puis c'est une équipe qui est dirigée par Michael Jordan, qui est quand même l'idole de Tony Parker. Donc je pense que ça va être vraiment intéressant de suivre un peu peut-être cette dernière saison de Tony. J'espère qu'il va accrocher les playoffs. Je pense qu'il ne pourra pas aller plus loin, mais c'est l'objectif. Hein. Ouais, exactement. Voilà, on verra après. Il faut voir.
Maxime Brossard, gardez la parole. Justement, on va passer sur votre coup de cœur ce soir et on va parler de combat. On va parler de sport de combat, une fois n'est pas coutume, j'ai envie de dire.
Toujours, hein.
Et avec la boxe.
Oui, la boxe. Alors moi, mon coup de cœur, c'est pour un Toulousain, c'est pour Arsène Goulamirian. Et ça colle aussi un peu avec l'actualité. C'est un franco-arménien, c'est un boxeur qui est champion du monde des lourds légers. Il a été champion du monde, sacré champion du monde WBA. C'était en mars dernier, donc c'était face au Belge Ryan Mery. Donc c'était à Marseille. Et puis là, bis repetita, il va défendre sa ceinture, en fait. Il va défendre sa ceinture dans cette même arène de Marseille qui est le Palais des Sports. Ce sera samedi 20 octobre, ce sera sur Canal+. Il va affronter un Australien, Mark Flanagan. Donc ça fait partie maintenant de son job, quoi, de champion, de défendre son titre avant peut-être d'aller viser un peu plus haut, comme le disait son entraîneur Abel Sanchez, qui est quand même un entraîneur mythique, qui entraîne notamment Gennady Golovkin. Il a dit que dans le futur, Arsène serait probablement un des top boxeurs de la planète. Donc l'histoire continue pour Arsène. Ça fait plaisir, d'autant que il est d'ici, il a commencé à Blagnac, il a une histoire incroyable puisqu'il vient d'Arménie. Je pense que c'est un ancien militaire, si je dis pas de bêtises, en plus, et c'est un athlète incroyable. Et puis en plus, ça fait plaisir de voir un Français champion du monde de boxe, puisque le dernier, on va dire, en WBA,
ça remonte,
c'était en 2007, c'était Brahim Asloum en mimouche.
Ouais, ça c'est
donc,
rare.
voilà, c'est assez rare. Et puis,
après, il y a eu Sofiane Noumia.
Ouais, mais là, voilà, c'était aux Jeux Olympiques.
Voilà, c'était sûr.
Voilà, après, vraiment, champion du monde, le dernier, c'était Hassan Endam en poids moyen.
Mais Noumia a été, je crois, champion du monde.
Amateur.
Alors, c'est amateur, ouais. Amateur. C'est pas professionnel. Là, on est dans la boxe pro, en fait. Voilà. Et donc, oui, après, petit clin d'œil aussi au club de Blagnac, où on peut citer des grands boxeurs qui y sont passés. Je pense à Maher Manchipour, je pense à Samir Ziani. Bon, aujourd'hui, il est professionnel, Arsène, ça marche bien pour lui. Et on a vu qu'il s'était bien entraîné, bien préparé à Big Bear Lake. Et j'espère que ça va cartonner pour lui.
Timothée Rouvière.
Et surtout, moi, je pense que la boxe française professionnelle a besoin d'une tête d'affiche depuis le retrait un petit peu forcé de Tony Oka pour 3 contrôles antidopage manqués. C'est vrai que la boxe française a du mal à émerger, à exister sur la scène internationale, donc c'est vrai que ça peut être une bonne opportunité.
Pour te rejoindre, je veux dire que là, on va assister vraiment à un vrai combat. Alors après, c'est vrai que beaucoup de détracteurs disaient que les personnes qu'affrontait Tony Oka étaient un peu des videurs de boîtes de nuit ou des chauffeurs de bus, mais bon, il était obligé forcément de commencer. Donc on est forcément obligé de commencer une carrière. On va pas de suite prendre Anthony Joshua. Donc bon, malheureusement, là, il y a un an d'interruption et puis une tarte de voir Tony Oka qui va revenir. J'espère qu'il va revenir plus fort encore.
Affûté comme jamais, ouais, j'en espère.
Timothée Rouvière, on change complètement de discipline, complètement de sport. On se met sur un deux roues, sans moteur, ça s'appelle un vélo. Un petit clin d'œil à Thibaut Pinot qui a fait une très très grosse performance ce week-end.
Ah oui, qui a fait une très très grosse performance, c'est le moins qu'on puisse dire. Vainqueur du Tour de Lombardie, qui était la dernière classique de la saison. Le dernier vainqueur français, c'était Laurent Jalabert en 97. Et mon coup de cœur,
c'est dire la performance
du français quand même. Et surtout, mon coup de cœur, c'est sur la saison de Thibaut Pinot. Je vais vous rappeler un petit peu les grandes dates. Vainqueur du Tour d'Espagne, vainqueur du Tour des Alpes. Il a participé au Tour d'Italie, mais il a dû abandonner lors de l'avant-dernière étape pour une pneumopathie. Il n'a pas fait le Tour de France parce qu'il était, malade. Il a remporté 2 victoires sur le Tour d'Espagne. Il est arrivé 6e au général, 9e des mondiaux ou encore vainqueur de Milan-Turin. Donc Thibaut Pinot, c'est un garçon qui a toujours dû en fait confirmer un petit peu les espoirs placés en lui. Et là, on se rend compte qu'il a fait une saison vraiment pleine. On se rend compte que finalement, on n'est pas obligé de faire le Tour de France pour bien exister au niveau international. Et ça fait plaisir à voir.
Et on le voit, on en parlait il y a pas longtemps sur le niveau du cyclisme français. Et c'est vrai que Thibaut Pinot confirme ce qu'on disait il y a pas longtemps, c'est que le cyclisme français est en train de devenir l'une des grosses nations du vélo mondial.
Puis là en plus il s'impose devant Nibali,
c'est quand même énorme. Devant Nibali et Edouard Tuns. Mais surtout ce qui est positif, c'est que les Français peuvent gagner sur les courses d'un jour. Le Tour de Lombardie, c'est une course d'un jour. On a vu Julien Alaphilippe qui est peut-être le meilleur puncher de la planète. Et les Français arrivent à exister. Donc bon, on a dit en sprint et en contre-la-montre, c'est un peu plus compliqué, mais arrivent à exister sur des grands tours, sur des tours à une semaine ou des courses d'un jour.
Ouais, j'ai une remarque, moi. Je vous entends pas trop, genre, donner vos coups de cœur ou vos coups de gueule. Et j'aimerais bien aujourd'hui, vous entendre un peu. Est-ce que vous voulez nous donner votre avis pour une fois?
Je suis déstabilisé. Allez, il y a 3 coups de cœur. On va rester sur les coups de cœur. Il y a Kyrian Vallée et son équipe qui a été ce week-end champion de France de relais mix 2018 de marche. Ce sont 4 Toulousains sur la première marche du podium. Ça se souligne.
Un beau coup de cœur sur
la marche et sur Kyrian Vallée et toute son équipe, championne de France de relais mix 2018.
Peut-être qu'on les aura dans cette émission un jour.
Alors, pourra les inviter de ce côté-là, il n'y a pas de problème. On se retrouve dans moins de 4 minutes et avec les résultats sportifs du week-end avec Timothée Rouvière. Tout de suite.
Je souffre en silence, mais moi je sais qu'un jour je finirai par avoir sa peau. Elle se calme et puis me relance à nouveau, mais moi je sais que j'aurai sa peau. C'est vrai, j'ai craché vers le ciel, je maudissais ce manque de veine, oui ce manque de peau. Viendra le jour où tout ce que je lui laisserai, ce sera la peau sur les os. Elle passe me voir à la nuit tombée, quand je bois du noir.
rêver d'être tombé là, d'être dans cette peau. Un peu comme le mistral qui souffle à l'année. Oui, ça fait froid dans le dos. Elle me joue des tours, il me mène en bateau. Ça fait boum 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 comme une pensée malsaine. Elle finit par bouger, non c'est pas trop tôt. Va te noyer dans la Seine. Elle passe me voir à la nuit tombée. Pour garder l'espoir, je lui dis
Christophe Maes sur Radio Présence.
Sportez-vous bien, Jean Sureda.
Un nouveau week-end intense pour les amoureux de sport. On fait le point avec vous, Timothée Rouvière. On commence bien évidemment avec le rugby. On va en parler tout à l'heure. C'était le week-end du début de la Coupe d'Europe et un bon début de campagne pour le Stade Toulouse.
Oui, une victoire à l'arraché pour les hommes d'Hugo Mola, 22-20 sur le terrain des Anglais de Basse. Les Toulousains qui peuvent remercier Maxime Médard, oui, auteur d'un essai et d'un sauvetage incroyable, on peut dire, en toute fin de match. Dans les autres rencontres, c'est mitigé pour les clubs français. Victoire pour le Racing 92 contre Clanecly 14-13 et de Montpellier face à Édimbourg 21-15. La journée de dimanche a été en revanche plus compliquée avec les défaites de Castres face à Gloucester 19-14 et de Lyon 30-21 contre Cardiff. Mais surtout, ce qu'on retient, c'est la défaite surprise de Toulon à domicile face à Newcastle 26-25, pourtant dernier du championnat anglais.
Et Toulon n'y arrive vraiment pas. Dans l'autre Coupe d'Europe, le challenge européen, c'est plus compliqué pour les clubs français.
Oui, un 2-7 pour les clubs de l'Hexagone. Vendredi, La Rochelle l'a emporté 82-21 avec 11 essais à la clé face aux Russes de Krasnoïarsk.
Compliqué à dire.
Le lendemain, c'est Clermont qui allait s'imposer 41-20 face à Northampton. Dans les autres rencontres, défaite pour le Stade français 38-27 contre les Anglais de Worcester. D'Agen contre les Harlequins 54-22. De Grenoble face à Trévise 40-14. De Bordeaux contre les Irlandais du Connacht 22-10. Et enfin de Perpignan 24-21 face à Sale.
On prend le ballon rond, le football. Les hommes de Didier Deschamps qui jouent demain débutent leur tournée d'octobre par un match nul assez surprenant.
Oui, 2-2 pour les Bleus face aux Islandais au stade du Roux-du-Roux à Guingamp. Après avoir encaissé 2 buts, les coéquipiers d'Hugo Lloris, titulaire au coup d'envoi, tout comme Lucas Digne, Prenel Kimpembe, Steven Nzonzi ou encore Florian Thauvin, sont revenus au score grâce à l'inévitable Kylian Mbappé. C'est donc un match nul un peu inespéré pour les Bleus qui devront montrer un autre visage mardi contre l'Allemagne dans le cadre de la Ligue des Nations. Dans les autres rencontres, carton pour les Pays-Bas contre l'Allemagne 3-0, on en parlera tout à l'heure. Victoire de la Belgique 2-1 contre la Suisse. Victoire du Portugal de Cristiano Ronaldo 3-2 contre la Pologne. Et enfin, dans un remake de la dernière demi-finale de la Coupe du Monde, Anglais et Croates se sont quittés sur un score nul et vierge.
Toujours du football, on passe de l'autre côté de la Méditerranée avec les qualifications qui se poursuivent sur le continent africain, justement pour la Coupe d'Afrique des Nations.
Pour la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en 2019, je le rappelle. Les grosses nations ont tenu leur rang, à l'image de l'Égypte, vainqueur 4-1 contre Eswatini, avec un but magnifique, un corner rentrant pour Mohamed Salah, et du Nigeria, vainqueur 4-0 contre la Libye. Pour la première de Geoffrey Kondogbia sur le maillot de la Centrafrique, ça a en revanche été un peu plus compliqué, avec une défaite 4-0 contre la Côte d'Ivoire. A noter aussi la victoire 1-0 du Cameroun contre le Malawi, avec un but du néo-parisien Éric-Maxime Choupo-Moting.
On prend la petite balle jaune maintenant, le tennis, et Novak Djokovic revient au sommet.
Une victoire probante 6-3, 6-4 du Serbe contre le Croate Borna Korir en finale du Master 1000 de Shanghai. A noter aussi le premier titre cette année en 2018 pour la Française Caroline Garcia. Elle s'est imposée à Tianjin en Chine contre Karolina Pliskova 7-6, 6-3. C'est le 7e trophée pour la Lyonnaise qui lui permet de remonter à la 12e place mondiale.
Le handball, le début de saison galère n'est pas fini pour le Phoenix Toulouse Handball malheureusement.
Une nouvelle défaite pour les hommes de Philippe Gardant, cette fois-ci c'est contre Paris et sa constellation de stars. Les Toulousains sont 13e du classement avant de retrouver mercredi prochain Dunkerque, 4e du classement. En tête de ce classement, on retrouve Nantes devant Chambéry et Paris.
Et les Toulousains qui auront besoin de vous, c'est au Palais des Sports mercredi à 20h30. Le volet est mauvais début de saison aussi pour les Spacers.
Oui, ça a mal pour les clubs de Toulouse. Hein. Une défaite 3-1 contre Tourcoing. Pour leur deuxième match, les Toulousains affronteront Narbonne.
Et depuis une semaine, on n'en parle pas beaucoup, les Jeux Olympiques ont lieu, mais les Jeux Olympiques de la jeunesse battent leur plein à Buenos Aires et un bon début d'Olympiade pour nos petits bleus.
13 médailles, c'est quand même pas mal pour l'équipe de France avec 2 titres, 7 médailles d'argent et 4 médailles de bronze. Les médailles d'or ont été décrochées par Hugo Gaston en tennis et Armand Spitschejer en escrime.
Et enfin, le hockey sur glace, les Belugas encore vainqueurs ce week-end.
Victoire 3-1 ce week-end contre Courchevel. Au classement, le Toulouse Blagnac Hockey Club est deuxième de son championnat, juste derrière Clermont-Ferrand.
Et on peut en profiter, on peut faire un petit point avec vous, Maxime Brossard. Oui. Vous êtes l'attaché pour la Dépêche, oui, justement, du hockey sur glace, spécialiste du hockey. Bon début de saison pour les hommes d'Eddy Martin qui était notre invité.
Oui, excellent début de saison. 3 matchs, 3 victoires, on va pas s'enflammer, mais c'est un super début. Je crois qu'ils n'avaient jamais fait un aussi bon démarrage depuis la saison 2009-2010. Ça remonte à un petit moment. Et très très bon début de saison. On se régale dans la patinoire, il y a du beau jeu. Ils sont allés chercher une victoire à Rouen à l'extérieur qui n'était pas forcément évidente. Là, surtout, ce que je retiens, moi, c'est la première journée. Morzine Avoriaz, la victoire dans prolongation, une victoire au mental, puisque c'était une équipe en fait qui descendait de Magnus, qui avait une rétrogradation financière. Ils avaient quand même gardé une grosse ossature, ils ont réussi à les battre.
Petit exploit.
Oui, petit exploit. Et puis surtout, ils ont marqué le territoire. D'entrée, ils ont dit bon, ben, on est là cette année, on va essayer de faire comme l'année dernière, c'est-à-dire jouer notre carte à fond en play-off et peut-être pourquoi pas aller au-delà des demi-finales cette année. D'ailleurs, justement, ce week-end, ils vont jouer contre Clermont. Donc,
qui est
le premier de la poule, en fait, ça va être le gros choc. Alors, et voilà, en fait, Clermont a fait un peu le même parcours que le TBHC l'année dernière. Ils vont se retrouver là, donc on va voir, ça va faire des étincelles. C'est un peu tôt dans la saison, à mon goût. C'est un peu dommage. J'aurais aimé que, ce soit un peu plus, que les équipes soient un peu plus rodées parce qu'il y a encore un peu de rodage à faire pour ce TBHC, mais bon, ça va être un match à suivre et il faut les suivre cette saison, le TBHC, il faut aller les encourager, hein, c'est une super équipe.
Affaire à suivre, merci Maxime, merci Timothée, on passe tout de suite au premier débat de la soirée.
Sportez-vous bien. Le débat.
Finaliste de la Coupe du Monde en 2002, finaliste de l'Euro en 2008, demi-finaliste de l'Euro 2012, de la Coupe du Monde 2006 et 2010. Et enfin, bien évidemment, champion du monde pour la quatrième fois en 2014, la Mannschaft, adversaire de l'équipe de France demain soir. Au Stade de France, et le football allemand semble être à bout de souffle avec un cycle quand même de 16 ans. Messieurs, question simple, et bien évidemment, vous commencez à avoir l'habitude, on répond que par oui ou par non. Le football allemand, le style allemand, est-il encore d'époque ? Maxime Brossard.
Je dirais mouais.
Mouais. Marek Keita.
Je dirais oui, mais.
Oui, mais. Et on y reviendra. Timothée Rouvière.
Moi, c'est catégorique, c'est non.
C'est non. Pourquoi ? C'est vraiment terminé ? C'est. Comme le Bayern Munich, comme l'Allemagne ?
Moi, je pense que l'Allemagne, ça fait très longtemps qu'ils sont au sommet. Et là, on assiste vraiment à un creux de génération. Alors, c'est pas forcément que les joueurs sont vieux, mais on a des joueurs qui sont plus à leur niveau. On voit notamment à l'image de la charnière Boateng-Hummels qui n'a pas au niveau en club. Qui est vieillissante, tout simplement. Et moi, je pense qu'il est temps aussi de changer d'entraîneur parce que ça fait Joachim Löw, ça fait le club depuis
2006.
depuis 2006 qu'il est là, donc ça fait 11 ans, même 12 ans.
Ouais,
donc faut peut-être changer un petit peu de style de jeu, et on voit que le football mondial évolue, donc c'est peut-être le moment.
Maxime Brossard, on sait pas trop.
C'est-à-dire que n'étant pas un expert du football, il suffit de regarder la composition de ce groupe un peu, et à part quelques joueurs, on connaît plus grand monde. Quoi. Je pense que Marek doit connaître plus de joueurs, puisqu'il est quand même plus spécialisé dans le football, mais quelqu'un qui survole un peu l'actualité du football à la vue du groupe, on connaît plus trop de noms. Bon, après, ils ont quand même joué pas forcément de chance, puisqu'ils sont tombés contre un énorme Areola quand il y avait eu le match contre Allemagne-France, le dernier Allemagne-France, et puis le dernier match qu'ils perdent contre les Pays-Bas, je crois, il y a quand même eu un pénalty qui n'avait pas été sifflé. Enfin, je crois, il y a eu des faits de jeu qui sont pas allés en leur faveur.
C'est défavorable, on est d'accord.
Donc, bon.
Mais Marek Keita, vous avez dit oui, mais.
Oui, non, moi je pense que le problème vient pas du style allemand. Le style allemand, on le sait, ce caractère un peu qu'on connaît des Allemands, même dans la société, de rigueur, tout ça, ça s'applique parfaitement, que ce soit dans le football ou même dans les autres sports. Et c'est ça qui fait la patte allemande. Pour moi, c'est pas un problème de style, mais réellement, comme l'a souligné Timothée, ça peut venir de l'entraîneur. Pour moi, la Coupe du Monde, c'est un problème pour eux. Je pense que le souci venait déjà de la titularisation de Manuel Neuer. Un joueur, certes cadre de l'équipe, mais qui n'a pas joué de la saison avec le Bayern Munich, ne peut pas être capitaine et titulaire. Et on l'a vu même, il était fébrile sur ses interventions.
C'est un mauvais message pour le groupe.
C'est un mauvais message pour le groupe. C'est la décision de Joachim Löw qui m'a dérangé sur ce mondial. Et je pense qu'il arrive effectivement en fin de cycle.
On va parler clairement, Timothée Rouvière. Est-ce qu'en cas de défaite, on ne va pas se mentir, ce qu'on espère, puisqu'on est quand même supporter de l'équipe de France, est-ce que Joachim Löw joue sa tête carrément demain soir? En cas de défaite, est-ce qu'il pourrait dire au revoir?
Moi, je ne pense pas qu'il joue sa tête demain soir, parce qu'au vu des résultats et du style de jeu qu'il a imposé à la tête de l'Allemagne, ça va être compliqué de le virer après 3 ou 4 défaites d'affilée.
Puis, la question se posait déjà même avant le Mondial. C'est quelqu'un qui est quand même assez proche de sa fédération, et il a été maintenu, il a signé un contrat jusqu'en 2022, il me semble. Donc ça pose vraiment un souci, ce cas Joachim Löw.
On est d'accord, il a fait beaucoup de bon travail, on va rester un petit peu sur l'entraîneur. Il a fait beaucoup de bon travail, champion du monde en 2014, il a fait des finales en 2008, en 2012, des demi en 2006, 2010, mais on prend l'exemple là, il y a pas longtemps, Leonardo Jardim, qui a emmené l'AS Monaco en champion de France devant le fameux Paris Saint-Germain sous l'ère qatari. Il emmène le club en demi-finale de la Ligue des Champions en éliminant Manchester City et le Borussia Dortmund, avant de se faire licencier plus ou moins à juste titre par rapport à ses résultats aujourd'hui. Un entraîneur, quand il arrive, il est au courant, il sait ce qui arrive. Quand on est en haut, tout est beau. Quand on est en bas, ça va pas. Malgré le fait qu'il ait emmené le sacre mondial en 2014, est-ce que le crédit, finalement, ne commence pas à doucement s'essouffler? Certes, une demi-finale en 2016,
Là, j'en profite, j'ai les statistiques sous les yeux, mais cette année, quand même, l'Allemagne, c'est déplorable. On l'a avec le match des Pays-Bas, la défaite, il y a quelque chose d'historique qui s'est produit. Jamais depuis 1995, les résultats de la Mannschaft n'avaient été aussi médiocres. Ils ont inscrit 0 but sur les 4 derniers matchs.
Ça résume tout. On parlait de la meilleure 0 but sur les 4 derniers matchs. On parle quand même de la meilleure attaque sur la phase finale de l'histoire de la Coupe du Monde, ex aequo avec la France de cette année 2018. Autre chiffre qui fait peur, Timothée Rouvière, c'est ils sont 12e au classement FIFA. C'est le plus faible classement depuis 2005. C'est là où on voit le fossé, mais absolument énorme.
Ça fait peur. Moi, je pense que c'est surtout la Coupe du Monde qui a fait très très mal. Et pour rejoindre sur ce que disait Marek, c'est surtout des problèmes de choix. Titulariser Manuel Neuer, alors qu'il y a des garçons comme Kevin Trapp ou encore Marc-André Ter Stegen qui est titulaire au FC Barcelone, ou ne pas prendre Leroy Sané qui est un des meilleurs joueurs du championnat anglais.
Oui.
Ouais, Leroy Sané, c'était, excusez-moi du terme, mais c'était abusé.
Après sans me faire l'avocat du diable, Leroy Sané, c'est quand même 12 matchs avec la Mannschaft, 0 but, 0 passe décisive. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une part de logique de ne pas le convoquer?
C'est un dynamiteur, Leroy Sané. Et au vu du peu de buts qu'a marqué la Mannschaft, je pense qu'il n'aurait pas été trop à la Coupe du Monde.
Au niveau du talent, moi je le compare à Mbappé, mais largement, hein, en tout cas.
Maxime,
j'avais une question pour Marek et Timothée, un peu, qui s'intéresse peut-être un peu plus au foot. Je voulais demander si ça venait peut-être pas du niveau de la Bundesliga aussi. Est-ce que la Bundesliga a pas régressé un peu ces dernières années, comme on a vu un peu ce qui s'était passé avec l'Italie et la Serie A, quand même, la Serie A qui a été un peu en dedans. On a vu qu'aussi l'équipe nationale était peut-être moins bonne. Est-ce que, selon vous, ça peut venir de là aussi, quoi?
Moi, je pense que ça peut venir de là parce qu'on a un gros club qu'est le Bayern Munich qui domine depuis plusieurs années. Après, on a le Borussia Dortmund, le Werder de Brême. C'est des clubs qui n'ont pas le niveau du Bayern Munich, et le Bayern Munich titularise peu de joueurs allemands, ou moins de joueurs allemands qu'il y a quelques années.
J'entends ce que vous dites, Timothée Rouvière, j'entends ce que vous dites, Maxime Brossard, mais Marek Keita, le contre-exemple, il est pour nous, l'équipe de France. On est champion du monde avec un seul club qui domine, qui survole, c'est le Paris Saint-Germain, un peu comme l'Allemagne avec le Bayern Munich. En dessous, c'est un peu plus en dessous. Est-ce que ça veut dire vraiment quelque chose?
Après, de tout temps,
avec beaucoup de joueurs qui jouent à l'étranger dans l'équipe de France.
Non, mais pour la France, c'est pas une nouveauté. L'équipe de France a toujours eu des joueurs qui jouent à l'étranger. C'était après moi, mais depuis plus d'une trentaine d'années. Après, l'Allemagne, eux, c'est vrai qu'ils avaient la caractéristique d'avoir ce noyau de mancuniens, au cœur de leur jeu. Je pensais à Boateng, à l'époque, Toni Kroos, quand il était encore, il y avait Robben,
Lahm, Schweinsteiger, Klose.
Oui, voilà, tout à fait. Donc, le problème, encore une fois, pour moi, il vient de Joachim Löw. Et il y a des entraîneurs qui dont rêvent, l'Allemagne. Je pense à Klopp, je pense à Tuchel, mais ça va être compliqué.
Ça peut être. Ouais.
Maxime, pour ça.
Oui, après, moi, je voulais donner un peu cet argument aussi. Je pense que, à mon avis, le football allemand va repartir. J'avais vu récemment que c'était un des footballs amateurs les plus développés au monde, où il y avait un énorme vivier de joueurs amateurs. Mais quand je dis joueurs, c'est-à-dire licenciés dans des clubs, je crois que c'est le plus grand nombre dans le monde. Je pense que, je sais pas, mais à votre avis, ils peuvent quand même s'appuyer sur ça pour peut-être puiser des pépites et retrouver de l'allant un peu, non?
Mais des joueurs comme Draxler, comme Leroy Sané, qui sont très jeunes, ils ont le même, pour moi, ils ont exactement le même vivier de joueurs que la France, avec nos jeunes de 20 ans, de 18 ans.
Comment rebondir, messieurs, après ce fiasco donc, de la Coupe du Monde, comme a vécu la France en 2002, qui était resté sur un titre de champion d'Europe 2000, comme l'a fait l'Italie en 2010, l'Espagne en 2014, qui eux aussi étaient restés sur un titre de champion d'Europe deux ans après. Comment on rebondit là-dessus? C'est la fin d'un cycle, il n'y a plus de motivation, il faut vraiment tout balayer, tout reconstruire.
Moi je pense qu'il faut changer, d'entraîneur tout simplement. On voit que le football mondial avec la Coupe du Monde et le jeu prôné par l'équipe de France est en train de changer. C'est un jeu de contre-attaque, c'est plus un jeu de possession prôné par l'Espagne et par l'Allemagne. D'accord. L'Espagne a su évoluer et changer, maintenant à l'Allemagne de faire de même.
Et l'Allemagne va accueillir l'Euro 2024. Ouais. L'objectif, est-ce que c'est vraiment trop loin pour un pays de football comme l'Allemagne, ou est-ce que l'objectif c'est d'être prêt pour l'Euro à domicile?
Alors là, bonne question. Après, si l'équipe va mal, peu importe que l'Euro soit à la maison ou pas, je pense que ça va quand même être la catastrophe s'ils perdent, et ça sera la fête s'ils gagnent. Mais bon, le fait que ce soit à domicile, je pense que ça ne mettra pas de pression particulière sur les épaules des dirigeants allemands. Et si quelque chose doit changer, il faut que ça se fasse assez rapidement.
Absolument. Voilà, et puis 2024, on se projette assez loin. C'est dans 6 ans. Il va se passer beaucoup de choses.
Il y a l'Euro 2020 et la Ligue des Nations dès demain. Dès demain au Stade de France pour le troisième match.
Espérons qu'ils ne vont pas nous faire mentir, en tout cas, les Allemands.
On verra demain. En cas de victoire, la France se rapprocherait des play-offs de la Ligue des Nations. Et en cas de victoire, justement, de la France, donc, qui serait synonyme de défaite de l'Allemagne, l'Allemagne pourrait carrément descendre en Ligue B. Vraiment incroyable au moment du tirage au sort. Messieurs, merci. On se retrouve, nous, dans moins de 4 minutes avec notre invité du soir.
La vie est belle. La vie est belle. La vie est belle. Seul dans ma chambre. Un jour normal, j'apprends dans les journaux que je suis dans l'axe du mal. Je lis entre les lignes et je comprends qu'on veut me kill. Donc je ferme la serrure pour être un peu plus tranquille. Dehors c'est la guerre et je crois qu'elle vient vers moi. Malgré les manifs, qui vivra la verra. Je mets des sacs de sable dans mon salon. Des salauds veulent me shooter comme au foot. Le stopper veut shooter le ballon. À la télé j'entends que je suis le pire des mecs. Non violent, violent, la propagande est impec. Je flippe des troupes spéciales des BI-52. Regrette ce que j'ai fait, je crois que j'aurais pu faire mieux. Mais l'erreur est humaine, j'avoue que j'ai fait des erreurs. Prendre position c'est prendre plus de terreur. Au nom du Père et du Saint-Esprit, l'imam et du rabbin, plus jamais ceci. Pas coupable, on me guide
par satellite pour faire un travail impeccable. Toutes les technologies sont mises à mon service dans le but de chasser le mal et que jaillisse un monde peace. Puis dans un porte-avions et fais ce qu'on me demande. Ce soir je dois frapper un type qui est tout seul dans sa chambre. Je suis un oiseau sans ailes, suppositoire de fer. 500 km à faire et puis pour lui c'est l'enfer. Ça y est, je suis parti, je vole vers son domicile. Et je préserve la paix en commettant des homicides. Perce les nuages verts, la psy c'est l'ordonné. Objectif mémorisé, je connais les coordonnées. Je suis de fer, lui de chair, arrive à l'improviste. Vole au-dessus de manif, de ces millions de pacifistes. Au nom du Père et du Saint-Esprit, de l'imam et du rabbin, plus jamais c'est ceci. Il arrive, il s'invite chez moi, pourtant c'est pas mon convive. On bombarde ma vie, mon quartier, mon bâtiment. Ce soir tu vas mourir, tel est mon ressentiment. Tranquille, je range ma chambre, puis je vois les photos de moi-même, de mon ex, vacances au Colorado. Des pouvoirs comme Montagne avec le sac à dos. Là-haut, donner discours avec tous ces ados. Vois mon père et puis ma mère sur des clichés noirs et blancs. Moi qui lui trouvais d'autres, je fais la même à mes enfants. Ils dorment tranquillement, ils doivent compter les moutons. Ou bien faisaient des rêves quand il y a eu l'explosion. On a tué ma famille sans même la connaître. Moi, ma femme et mes enfants sans m'ajouter au père. Des missiles kill dans le civil kill. Les enfants dociles, le monde est hostile. J'ai rien fait, ils n'ont rien fait, ils n'avaient rien fait. Ils parlaient de bienfaits, mais je ne vois que des méfaits. Non, ce n'est pas du racet, crever la fesse. S'ils sont absents, c'est grâce à vos excès. J'appelle les synagogues, les mosquées et les temples. Églises et chapelles, militants, militants. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Saint-Esprit, l'imam et du rabbin, plus jamais ceci. Du Fils et du Saint-Esprit. Saint-Esprit, l'imam et du rabbin, plus jamais ceci.
Et c'était MC Solar sur Radio Présence.
Portez-vous bien. L'invité.
Notre invité est manager de Colomiers depuis 2017. Olivier Baragnon est le chef d'orchestre d'un club historique du rugby hexagonal. Aujourd'hui en Pro D2, Colomiers et Olivier Baragnon veulent continuer à faire grandir le club. Olivier, bonsoir.
Bonsoir.
Après une saison en demi-teinte, on peut le dire, l'année dernière, vous avez plutôt mal débuté l'exercice, mais vous restez quand même sur une victoire contre Béziers. Comment jugez-vous le début de saison ?
C'est vrai que le début de saison, il a été... en deçà de notre volonté, de nos ambitions, hein, notamment avec un match perdu à la maison contre Oyonnax. Et donc c'est ce match-là qui nous a fait mal à la tête sur ce début de saison. En plus, il avait un scénario un peu particulier puisqu'on l'a perdu à la 78e minute.
Donc c'est vraiment le départ important aussi, comme Lafage, Plazy ou Onombele. Il y a eu 8 recrues. Est-ce que c'est suffisant pour compenser le départ de ces jeunes joueurs talentueux?
Ah, c'est sûr que c'était des joueurs talentueux, hein, puisqu'ils sont tous partis, et je rajouterai Victor Delmas qui est parti aussi en Angleterre en Premiership. Ça fait 4 ou 5 joueurs jeunes, talentueux, qui sont partis à l'échelon du dessus, c'est donc qu'ils le méritaient. Et donc nos recrues, il leur faut aussi le temps de s'acclimater, et puis il faut aussi le temps... pour des jeunes de reprendre la place que ces jeunes Colubérins avaient prise.
Colomiers, c'est un club formateur par excellence, on le sait tous. Est-ce que vous ne doutez pas du modèle de fonctionnement en voyant des budgets comme Nevers, pourtant promu en Pro D2 ?
Promu de la saison dernière, puisqu'ils oui. étaient déjà la saison dernière en Pro D2, oui. mais c'est vrai que c'est des budgets quasiment double du nôtre. Hein. Donc nous, on a un système aussi économique qui est le nôtre, qui est sur le deuxième club du bassin toulousain. Hein, donc... C'est vrai qu'on n'a pas un énorme budget, mais ce n'est pas par force qu'on est dans la formation, c'est aussi l'ADN du club.
Et est-ce que l'ombre du stade toulousain est vraiment trop importante pour Colomiers ? C'est vraiment dur d'exister dans une région où y a un monument du rugby, même européen, si ce n'est mondial, juste à côté.
Bon, c'est certainement un monument du rugby mondial, mais L'ombre, bien sûr qu'il y a une prédominance du Stade Toulousain. On n'est déjà pas dans la même division, ou en tout cas, on n'est plus dans la même division. Mais par contre, après, je pense qu'il y a la place réellement pour deux gros clubs dans la région Midi-Pyrénées.
C'est ce qu'on vous souhaite. On vient de parler aussi des départs des jeunes talentueux, mais vous, en tant qu'entraîneur, est-ce que c'est pas pénible, passez-moi l'expression, de voir toujours les jeunes partir et de limite rebâtir à chaque fois presque de zéro, entre guillemets?
Non, on repart pas de zéro parce qu'il y a quand même, on a un effectif où il y a des garçons qui ont une fidélité au club exceptionnelle. Je pense à Romain Mémin, le capitaine du match contre Béziers, qui est là depuis 16 ou 17 ans. Donc, on reconstruit pas. Après, il est clair qu'on a des réglages à faire quand il y a beaucoup d'arrivées. Là, il y a eu 8 arrivées cette saison. Il y a des choses à faire ensemble, hein, mais.
Vous avez terminé 9e l'an dernier. Vous êtes plus en top 14. Enfin, en top 14 à l'époque, c'était top 16.
Depuis le top 16 et ça commence à dater, oui.
Oui, depuis ça fait 2004. Qu'est-ce qui manque au club pour monter au niveau dans l'élite du rugby hexagonal?
Bah, il manque au club sûrement quelques millions, hein, parce que ça c'est indéniable. Hein.
C'est dans tous les sports.
C'est dans tous les sports et il y a un facteur économique qui est indéniable. Aujourd'hui, on a un budget médian de Pro D2 et on voit que des équipes comme Nevers sont déjà au double, au Yonax. Donc, on n'a pas un énorme budget. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est limité aussi. L'ambition, elle ne se limite pas que par le budget, mais c'est vrai que dans l'effectif, bien sûr, dire que c'est plus facile de monter avec 6 millions qu'avec 15, je ne crois pas.
Maxime Brossard.
Oui, bonsoir Olivier. Bonsoir. Moi j'avais une question, c'était un peu justement, est-ce que vous pouviez nous décrire justement quelles sont un peu les forces et les faiblesses de cet effectif de Colomiers cette saison?
Les forces, c'est une stabilité, ouais. Parce que malgré les 8 départs, il y a quand même 30 joueurs, on a à peu près un effectif de 38 joueurs, hein, ouais. En comptant les jeunes, on est à peu près à 38-40 en comptant les jeunes du centre de formation. Donc les forces de Colomiers, c'est aussi une stabilité dans l'effectif, des jeunes qui poussent, hein, je pense notamment au jeune Sadia par exemple, hein,
oui, bien sûr.
Qui vient de faire 80 minutes au talon à 23 ans et qui sort complètement de la formation columérine. Hein. Donc ça c'est une force. Après l'implication des joueurs, mais après on a aussi des adversaires et qui ont sûrement ces mêmes forces-là, hein, et qui travaillent sur ces mêmes forces-là. Nos faiblesses, parce que je suppose que quand vous parlez de force, il faut effectivement
en contrebalancer,
en parlant de nos faiblesses. Aujourd'hui, nos faiblesses, elles sont au niveau comptable. On n'a pas pris suffisamment de points quand on aurait pu les prendre.
Oui, vous avez des regrets, notamment, je pense peut-être, on a dit le match contre Rien, il y avait aussi ce match contre Aix-en-Provence aussi, non, la première journée, vous faites une très bonne première mi-temps.
Oui, tout à fait. Celui-là, on l'avait gagné.
Oui, vous l'avez sur un drop à la fin de Brandon Fajardo, je me rappelle.
Exactement, mais celui-là, on l'avait gagné, mais c'est vrai qu'il nous laissait des regrets parce qu'on avait bloqué à la 50e, ça s'est reproduit vendredi soir, et donc ça, on a besoin aussi. Ça, s'il y a un axe de travail, c'est bien celui-là, c'est arriver à produire sur 80 minutes la même qualité de rugby. Par exemple, contre Béziers, on a fait une très bonne première mi-temps, on a eu du mal à rester dans les mêmes intentions physiquement.
D'accord.
Colomiers est en Pro D2 justement. Ce championnat, comment vous le jugez, le championnat de Pro D2? Il y a quand même une grosse dimension depuis 2-3 ans. On parlait justement de Nevers, d'Aix-en-Provence, qui sont des adversaires très costauds.
Ouais, moi je trouve qu'elle s'est vraiment extrêmement densifiée, la Pro D2. Elle s'est densifiée avec des jeunes français, puis aussi des étrangers, et beaucoup plus de, il me semble, d'homogénéité qu'il y a 5 ou 6 ans.
Maxime Brossard.
C'est très très homogène aujourd'hui, il y a tout le monde peut gagner chez tout le monde. Donc ce qui la rend très intéressante aussi. Hein.
Moi j'avais une question par rapport justement donc, à l'homogénéité, à la qualité de ce championnat. C'était sur la possible sélection de Demba Bamba, le pilier de Brive. Ça serait le premier joueur de Pro D2 sélectionné en équipe de France. Je voulais un peu avoir votre avis sur cette sélection. Ça veut dire quand même que ce championnat, ça peut être très bénéfique pour un jeune joueur qui vient de top 14 et qui n'a peut-être pas forcément le temps de jeu escompté.
Ouais, je pense que effectivement le temps de jeu, il fait la différence aujourd'hui. Il y a un gap énorme entre les espoirs de top 14 et la Pro D2. Et donc, je pense que réellement, un jeune qui vient s'aguerrir en Pro D2, il peut briller, et puis c'est ce qui est en train de se passer pour ce jeune pilier français, quoi.
Pour terminer, vous avez 4 semaines décisives qui arrivent avec des concurrents directs comme Bourg-en-Bresse et Aurillac, avec des chocs à Mont-de-Marsan, et vous recevez également Nevers. Comment gérer ce mois de compétition?
Bon, ce mois de compétition, on s'est déjà accordé, enfin, on a déjà accordé aux joueurs 3 jours pour se régénérer, parce que on n'avait pas coupé depuis le début de la saison. Donc là, on a coupé 3 jours de manière à remplir un peu les batteries, aussi bien physiques que mentales. Et puis après, ben nous, aujourd'hui, on n'est pas dans du calcul. On ne peut pas se permettre ça. Donc on va jouer tous les matchs avec de l'ambition de prendre des points partout.
Olivier Baragnon, merci.
Merci Olivier.
Avec grand plaisir.
Merci d'avoir été avec nous. On le rappelle, vous êtes l'entraîneur de Colomiers Rugby. Et nous, on continue avec les rendez-vous sportifs, l'agenda de la semaine.
Portez-vous bien, l'agenda sportif.
Et l'agenda de la semaine, l'agenda sportif avec vous cette semaine, encore une fois, oui. Maxime Brossard.
Il va pas falloir s'habituer parce que... non, je plaisante. Alors on commence par du foot avec la reprise de la Ligue 1 samedi. Bon, ce sera un match à l'extérieur. Le TFC va aller à Nantes, ce sera à 20h donc samedi. On va descendre d'un cran, on va parler de Rodez, enfin même de 2 crans, on va parler de Rodez le RAF qui va aller à Tours.
Ce sera National 1. 3ème division.
3ème division, c'est ça. Ce sera le 19 donc, cette affiche. Après, si vous êtes dans la région toulousaine, vous pouvez, et que vous aimez le beau foot, vous pouvez aller voir un match de National 2. Il y aura Colomiers qui recevra Blois. Ce sera le 20, ce coup-ci, du coup, ce sera samedi. Il y aura aussi en foot, si vous êtes plus proche des Pyrénées, Tarbes. Oui, il y aura Tarbes qui recevra l'équipe de Rodez. Ce sera en National 3, on n'en parle pas souvent, mais bon, je pense que ça...
Cinquième division,
mais...
c'est du très bon niveau déjà.
Très bon niveau, effectivement. Ce sera à 20h10, le 20 octobre à 18h, excusez-moi. Enfin, pour le foot, on enchaîne avec donc l'AD1 féminine. Les filles de Rodez qui sont pas très bien au classement, puisqu'elles sont 12e du classement, elles sont dans les bas-fonds de cette première division. Victoire impérative, donc elles reçoivent samedi Fleury à Paul-Lignon à 14h30.
Gros match.
Ouais, gros match pour elles, ouais, bien sûr. On passe au rugby, alors la Coupe d'Europe toujours, et là ça va être le choc, le match à pas manquer, c'est Castres-Exeter pour moi, Pierre Fabre, ce sera à 14h le samedi, dans le champion de France contre le champion d'Angleterre. On va enfin voir quel est le meilleur championnat du monde.
On en parlera tout à l'heure justement.
Oui, dans le débat. Et puis en rugby, toujours à Toulouse, là aussi énorme affiche, le Stade Toulousain qui va recevoir le Leinster, les Irlandais champions en titre. On va dire c'est un peu les deux équipes les plus titrées de cette Coupe d'Europe qui vont s'affronter. Ce sera le dimanche à 16h15. À l'échelon juste en dessous, la Challenge Cup. Il y aura un sympathique à Gênes-Trévise à 19h30 le vendredi.
Toujours agréable à voir. Hein.
Toujours, ouais, bien sûr. Armandie, très joli stade en plus. Ce sera sympathique. Ouais. Et puis après, si vous êtes du côté de Pau, là, il y aura un duel franco-français. Il y aura même peut-être une revanche pour les Palois, puisqu'ils recevront le Stade français à 14h. Et ce sera samedi. Bon, il n'y a pas de Pro D2 ce week-end, malheureusement, même si on a eu Olivier Baragnon.
Oui, voilà. Un jour de repos, il
bien sûr, c'est les vacances pour la Pro D2. Mais du coup, il y aura la Fédérale 1 quand même. Je vais parler de la Poule 2 rapidement. Lannemezan qui va recevoir Lavor, ce sera le dimanche à 15h. Bagnères de Bigorre qui va affronter Saint-Jean-de-Luz le même jour à 15h. Il y aura aussi un intéressant Anglette Albi à 15h15 et Valence d'Agen qui recevra Tarbes à 15h30. Dans la poule 3, par contre, là, je vous invite à venir au stade Ernest Argelès de Blagnac pour le choc entre Blagnac et Castanet à 18h30. Ce sera le samedi. À la même heure, il y aura Narbonne-Saint-Sulpice-sur-Lèze, intéressant à suivre aussi. Et il y aura un match le lendemain entre Groyer et Florence à 15h à Groyer. Et toujours un mot de rugby, il y aura les filles de Blagnac qui affronteront Rouen juste après le match des garçons, donc ce sera samedi à 20h30. Voilà, on passe au handball un peu, donc actualité chargée, comme l'a dit Timothée tout à l'heure, il y aura 2 réceptions à prévoir, dans la première ce sera le Phoenix donc, qui reçoit Dunkerque.
Qui a besoin de soutien sur ce début de saison.
Énormément besoin de soutien, ils sont avant-dernier, 13e, ce sera donc le 17, ça c'est mercredi à 20h30. Et ensuite, il y aura un petit bol d'air, peut-être, on l'espère, pour les hommes de Philippe Gardin, avec la réception de Cesson-Rennes. Ce sera dimanche à 16h, ce sera les 8e de finale de la Coupe de la Ligue, exactement. Et puis enfin, on enchaîne avec le volley. Donc la saison a mal commencé pour Toulouse aussi avec une défaite. Ils ont été battus par Tourcoing en ouverture du championnat. Mais vendredi, ils reçoivent Cannes à 20h. Donc on espère qu'ils vont se relancer. Allez.
La semaine va être très chargée pour les amoureux de sport sur Toulouse et sa région. Merci Maxime Brossard. On se retrouve là tout de suite et on va parler du deuxième débat. On va parler de rugby.
Sportez-vous bien. Le débat.
Après le football, le rugby est à la recherche d'un titre européen depuis 2015 et le succès de Toulon, son troisième de suite, c'était contre Clermont. Le rugby français ne semble pas être en mesure de battre des équipes comme le Leicester ou les Saracens. Mais la beauté du sport fait toujours espérer. Messieurs, toujours une question simple et bien évidemment, on commence à avoir l'habitude, on répond par oui ou par non. Un club français va-t-il remporter la Champions Cup 2019? Il faut se projeter. Maxime Brossard.
Non.
Non, Marie Keita. Ouais,
non. Non plus.
Et Timothée Rouvière. Timothée Rouvière, oui. Qui? Allez. Qui?
Ouais, moi, je suis quelqu'un de positif. Moi, je vois le Racing. Moi, je vois le Racing qui a un gros. Qui a déjà été en finale l'année dernière, qui a déjà été en finale il y a quelques années.
Il y a deux ans.
Qui a une grosse profondeur de banc. Et pour moi, le Racing, alors, au même titre que peut-être Montpellier est une des seules équipes en France qui peut jouer à fond sur les deux tableaux.
Maxime Brossard.
Ouais, c'est ça, c'est la profondeur de banc qui joue surtout sur cette Coupe d'Europe. Ils ont fait un bon résultat, ils sont allés chercher une victoire à l'arraché à Klanekli lors de la première journée. C'était pas évident, mais ils ont montré que justement, ils étaient capables de se battre sur n'importe quel type de match, que ce soit dur, que ce soit un jeu un peu plus aéré, quoi.
Donc, le Racing qui okay, a quelques blessés en ce début de saison, mais qui a quand même fait signer deux gros joueurs, deux grosses recrues, avec Simon Zibo à l'aile et Finn Russell, l'écossais, à l'ouverture.
Après, oui, bien sûr, il y a eu un bon recrutement pour le Racing, mais bon, je pense que ce ne sera pas suffisant pour moi pour aller décrocher un titre, même pour un club français. Mes arguments, ils sont très simples. Je vais dire Leinster, je vais dire Munster, je vais dire Saracens, je vais dire Exeter, enfin. Là, il y a quand même du très haut niveau. En plus, l'avantage qu'ont les équipes irlandaises, c'est qu'elles sont dans un championnat qui, finalement, le calendrier est taillé pour cette Coupe d'Europe. Bon, certes, il y a eu des équipes qui se sont rajoutées, des franchises sud-africaines, on rappelle, qui se sont rajoutées au Pro 12 pour devenir le Pro 14, en fait. Mais bon, c'est pas ça qui c'est pas deux déplacements qui vont fatiguer les joueurs. Et donc, et puis je pense aussi en termes d'attente dans des pays celtes comme l'Irlande, le Pays de Galles, l'Écosse, le titre de champion d'Europe a beaucoup plus de résonance qu'un titre de champion de la Ligue celte, on va dire.
Messieurs, depuis 2013, donc c'était en 2012 où il n'y avait pas de club français, depuis 2013 la France place au moins un club en finale de la Coupe d'Europe, mais depuis 2015 et la victoire, on l'a dit tout à l'heure, du Racing
du rugby club Toulon.
Face à Clermont, aucun club français ne s'est imposé. Deux fois le Racing 92, donc en 2016 et en 2018, une fois Clermont, encore une fois en 2017. Qu'est-ce qui manque pour passer le cap maintenant dans l'ère moderne du rugby?
Moi, je pense qu'il manque un petit peu d'expérience, il manque de la fraîcheur physique en fin de championnat. On sait que le top 14, il y a des phases finales qui éprouvent beaucoup les organismes et les esprits. On sait qu'il y a beaucoup de blessés, il y a aussi beaucoup de joueurs français qui doivent aussi se déplacer pour aller jouer les tournois de juin ou le tournoi destination. Et donc tout ça fatigue au fur et à mesure et c'est pour ça que ça manque un petit peu de fraîcheur physique. Pour les grandes échéances en fin de saison.
Marie Keita.
Ouais, vous parlez du physique, ça s'est un peu vu ce week-end, par exemple, bon, avec le Lyon qui a craqué physiquement dès la 50e minute. Il y a aussi finalement le Racing qui allait chercher sa victoire un peu au forcing.
À l'arrache.
Surtout que Cardiff est une équipe qui a la peine en Ligue Celt. Ils ont fait un très mauvais début de saison. Je pensais que Lyon aurait été plus meilleur que ça, serait bien rentré dans la compétition. C'est dommage pour Lyon, mais je pense que c'est une compétition, ils peuvent bien figurer. C'est pas très intéressant.
Un mot sur nos deux clubs de la région engagés. Castres, ouais. Donc champion de France en titre, qui va jouer contre le champion d'Angleterre. Toulouse, pardon, qui va affronter Leinster, le tenant du titre de cette compétition. Ouais. Quel club va réussir l'exploit là sur ce week-end?
L'exploit, je sais pas. Enfin, je dirais. Bon, après, j'aurais plus.
Quel plus de chances?
J'aurais plus Toulouse parce qu'en fait, pour moi, Castres, ils ont pas une grande histoire avec la Coupe d'Europe. C'est jamais un club c'est un club qui a toujours eu des belles équipes, qui s'est toujours bien démené en championnat de France. Mais en Coupe d'Europe, j'ai jamais trouvé très. Même, j'ai l'impression qu'ils sont pas très intéressés par cette compétition. Alors justement, Christophe Furios a mis un peu les points sur les i. Il a dit que cette année, ils allaient tenter vraiment de bien figurer. Bon. on va voir, j'attends de voir, mais ouais, pourquoi pas Castres, j'aimerais bien aussi qu'ils s'y mettent un peu à la Coupe d'Europe.
Timothée Rouvière.
Pour Castres, ça va surtout être compliqué, on voit qu'ils ont perdu contre l'adversaire qui pour moi est le plus faible du groupe Gloucester. Après il y a Exeter qui est champion d'Angleterre en titre, et le Munster qui avec la Red Army qui est toujours compliqué, voilà, qui a toujours la réputation d'être compliqué. Moi Toulouse, je les vois bien, la victoire contre Basse était inattendue, même pour,
fantastique.
Était fantastique, pleine de rebondissements. Après le Leinster et les Wasps qui sont quand même outsiders dans la compétition, et le Leinster qui sont parmi les gros favoris, ça va être très très compliqué.
Oh ouais, c'est deux clubs du coin ont quand même de sacrées boules, quoi, donc.
Ouais. Toulouse n'a plus remporté le titre depuis 2010, avec justement le Leinster, c'est le club qui a le plus de fois remporté cette coupe d'Europe à 4 reprises. Ouais. C'est, on l'a dit et vous en avez parlé dans l'agenda tout à l'heure, c'est le choc du week-end sur le plan européen dans le rugby. Est-ce que Toulouse, qu'est-ce qui manque à Toulouse là pour...
Moi, je vais m'avancer un peu. Je pense qu'en fait, même ce qui manque généralement au club français, c'est finalement d'avoir ce côté un peu, on va dire, dans un sens tactique, je vais parler un peu, ce côté un peu polymorphe qu'ont les équipes anglo-saxonnes et irlandaises, c'est-à-dire qu'elles sont capables à la fois de déployer du jeu avec des trois quarts très rapides, très véloces et du jeu aéré. Mais quand il pleut, ou quand le match est très tendu, ils savent conserver les ballons devant, et ils ont surtout la chance d'avoir de grands buteurs. Quand on regarde les dernières compétitions qui a gagné, le Leinster, ils avaient quand même le grand Johnny Sexton, et les Saracens, ils avaient quand même Owen Farrell. Et ils avaient tous deux des packs de mammouths qui leur permettaient, en fait, finalement, de répondre au combat, et même de changer, on va dire, la donne tactique d'un match. C'est-à-dire, pas forcément se concentrer sur les trois quarts, mais finalement aller dans un jeu frontal.
Timothée Rouvière.
Et on l'a bien fait ce week-end avec Toulon, hein, qui, on dit toujours que le rugby se joue devant, mais on l'a vu avec Toulon qui a une ligne de trois quarts quand même phénoménale, qui avec Fekitoa, que ça soit Mathieu Bastaro, Twisova, Pedersen, et on a vu que devant ça avait du mal à suivre, et c'est pour ça qu'ils ont perdu contre Newcastle. Ouais.
Un mot aussi sur on vient de parler du niveau un peu du top 14, justement où il en est par rapport à des championnats comme l'Angleterre, comme l'Irlande. Est-ce qu'il est toujours le meilleur championnat du monde? Il y a un débat, j'ai l'impression, moi à titre personnel, que le niveau en France stagne depuis déjà 4-5 ans.
Je suis d'accord avec vous, Jean. Le niveau stagne, et puis surtout, en fait, j'invite les auditeurs à essayer de regarder de temps en temps en streaming des matchs de Pro 14 ou de Premiership. Déjà, le fait qu'il n'y ait qu'une relégation, pas de relégation en Pro 14 et une seule relégation en Premiership, les équipes jouent moins bridées, il y a plus de jeux, il suffit de regarder les scores. On peut lancer des jeunes sans avoir peur de redescendre en division inférieure, donc c'est tout bénéfique, et je pense que l'interrogation du top 14 à venir, elle est sur ça. Est-ce qu'il va falloir réformer le championnat et comment?
Timothée Rouvière.
Oui, le top 14 se stagne, mais surtout le championnat anglais progresse avec des joueurs fabuleux.
Ah oui, il y a des arrivées incroyables au Wasp, dans d'autres clubs. Enfin, on verra.
Merci messieurs pour ce soir, merci à vous, merci à Coraline et Grégoire à la réalisation. On retrouve dès demain 7h Rémi Souloumiac, Isabelle Honneil et Corinne Saint-Félix. À 9h, Vivante Église avec Emmanuel Pella.